disse que não viu, não encontrou, não sabe mais onde está. O seu amor não vá agora se desesperar por alguém que já se foi e não pretende voltar. Trate de fazer a coisa certa. Vamos, por favor, tenha mais pressa. Disse que não viu, não encontrou, não sabe mais onde está. O seu amor não vá agora se desesperar por alguém que já se foi e não pretende voltar. Trate de fazer a coisa certa. Vamos, por favor, tenha mais pressa de chegar a algum lugar. Lembrança daquele que te fez chorar. Queria uma casa criada, roupa passada, comida na mesa. Mas isso você com certeza e delicadeza já disse que não. Não obrigado, seu moço, porque vida minha não é na cozinha. Prefiro até chorar, mas a vida eu não passo sozinha.
Vous êtes bien sur Micro Rebelle dans notre émission Micro Littéraire du dimanche matin. Alors aujourd'hui, nous poursuivons la révolte des pendus de Betraven. Hein, ce sera la troisième partie. Vous venez d'entendre Diego Cadoval qui nous a transporté dans une ambiance brésilienne chaloupée. Hein, c'est un morceau assez épuré et une musique un peu enivrante. Ce premier morceau s'appelle Cebola. Nous vous ferons écouter un autre morceau à la fin de cette émission. Hein. C'est ce que nous propose Diego Cadoval. Ce sont des ballades dépouillées, tout à fait dans l'air de la révolte des pendus, hein, dans l'air sud-américain, dans l'air latino de la révolte des pendus. Donc aujourd'hui, ce sera notre troisième partie de la révolte des pendus de Betraven. Hein. Ce qu'on a pu apprécier durant les deux premières parties, hein, on vous fait un petit résumé. Nous sommes au Chiapas, dans les années 1910. Hein, la révolution mexicaine couve contre le dictateur Porfirio Diaz. Et même si on est loin de Mexico, même si on est loin des grandes villes, elle couve également au Chiapas. Le roman nous transporte dans des exploitations forestières hein, qu'on appelle des monterías. Donc exploitation forestière, mais aussi exploitation humaine. Les Indiens sont réduits en esclavage. Et dans ce roman, les Indiens dont il est question, ce sont des bûcherons et des bouviers hein, qui abattent des arbres d'acajou. L'acajou, c'est la caoba. Un bois qui est très apprécié pour construire les bureaux des bourgeois américains ou européens. Donc, on va continuer aujourd'hui à dérouler pas à pas ce très beau roman de Beethoven. Donc la révolte couve, la révolte gronde. Les Indiens qui jusqu'à présent étaient habitués à subir vont commencer à se révolter. C'est le titre du roman « La révolte des pendus ». Alors, après des mois, des années d'exploitation, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le fouet, les nuits passées à être pendu par les quatre membres, les privations... L'augmentation des cadences, rappelons-nous qu'il était demandé à chaque Indien d'abattre 2 tonnes de caoba, 2 tonnes de bois par jour. On a poussé cette cadence à 3 tonnes, puis à 4 tonnes, parce que les patrons avaient des difficultés par ailleurs. Et dans ce cas-là, la variable d'ajustement, c'est l'exploitation des travailleurs. Les trois patrons dont il est question dans ce roman, ce sont les frères Montelano. Et le premier acte de la révolte qu'on a pu... découvert la semaine dernière, c'est un Indien, un Urbano, qui a mutilé son patron, qui s'apprêtait à le fouetter. Donc Urbano s'est révolté, une révolte individuelle, mais qui va en entraîner une bien plus grande et une bien plus collective. Suite à cette agression, suite à cette révolte, Urbano s'est suicidé. Notons d'ailleurs que son patron, celui qu'Urbano a mutilé, s'est également suicidé. Donc ça, c'était le premier acte. Et le deuxième acte, c'est la fuite de certains Indiens, la fuite de certaines familles. C'est ce que nous propose Beethoven dans l'extrait qui va suivre.
Le premier convoi de travailleurs avait abordé l'autre rive. Les deux canots qui les avaient amenés firent demi-tour. Descendre le fleuve n'était qu'un jeu, mais remonter le courant durait plus longtemps, car le fleuve était en perpétuel bouillonnement et sa course était terriblement violente. Les canots... ou cayucos, comme les muchachos les appelaient, n'étaient que de simples pirogues allongées creusées dans des troncs. Seul le cayucuero restait debout pendant la traversée. Tous les autres se tenaient accroupis au fond de l'embarcation. Le canot se balançait dangereusement, penché sur le côté. Il fallait que le cayucuero fût très entraîné et très adroit pour mener un tel esquif sur ce fleuve gonflé et tumultueux sans qu'il se retournât et jetât tous ses passagers à l'eau. Candido, Modesta, les deux enfants et Celso attendaient sur la berge le retour de Cayuco qui devait les emmener. Les colis étaient par terre à côté d'eux. Les enfants tenaient les porcelets attachés par un lasso. Les petites bêtes avaient considérablement graissé et le temps était passé où Candido pouvait les transporter facilement sur son dos. Il ne savait pas très bien ce qu'il allait faire de ces animaux, mais il y tenait et les considérait un peu comme des amis, car ils étaient pour lui les seuls liens terrestres qui le rattachaient à la petite ferme pour laquelle il les avait achetés autrefois. Il avait eu récemment une conversation à leur sujet avec le cuisinier du campement, qui voulait les lui acheter à un bon prix. Le cuisinier lui avait affirmé qu'avec l'argent qu'il lui verserait, Candido pourrait solder son compte débiteur et qu'ensuite il pourrait partir librement. Mais un muchacho que Candido avait consulté lui avait répondu que la chose n'irait pas si facilement, même s'il n'avait plus de dettes, car le contrat ne reposait pas sur un compte, mais sur une période de travail déterminée. Sans doute, libéré de toute obligation, il pourrait, à l'expiration de son contrat, s'en retourner avec une jolie somme liquide. Peut-être. Mais pour l'instant, Candido ne songeait nullement à se séparer de ses bêtes. Sa seule crainte était que Don Félix s'en emparât et ne lui déduisît que quelques misérables pesos de son compte. Candido et Celso attendaient sur la rive, une lanterne allumée à la main, pour indiquer au cayucuero qui revenait le point exact où il devait aborder. Les lanternes fumaient et ne donnaient que fort peu de lumière. La lune était pleine, mais ses rayons ne réussissaient pas à percer les nuages épais. Déjà, une petite pluie fine commençait à tomber. On ne voyait pas à 2 mètres devant soi. Le premier cayucuero émergea soudain du brouillard et de l'eau, inattendu comme un fantôme. Candido sauta dans l'embarcation et pria Celso et ses enfants de lui passer les colis. Mais le cayucuero leur dit « Ce n'est pas dans mon cayuco que vous traverserez. Vous passerez avec Felipe qui va arriver tout de suite. Il est à quelques mètres derrière moi. Il est fadé, c'est vrai, il ne tient pas très droit sur ses jambes. Mais même endormi et les yeux bandés, ce bougre-là conduit son canot mieux que je ne pourrais le faire. Moi, j'ai deux autres muchachos à traverser, et il faut que j'embarque tout un chargement d'outils, de haches, de pierres à aiguiser, et Dieu sait quoi encore, sans compter El Faldon. Oh là, voilà justement Felipe qui arrive.
Alors dans son roman, hein, La révolte des pendus, Betraven nous ménage également beaucoup de descriptions qui nous permettent de nous resituer le contexte. Et là, dans l'extrait qui va suivre, on va avoir une description de la jungle dans laquelle les travailleurs, les prolétaires indiens, sont amenés à travailler, sont amenés à abattre le bois. Donc une description de la jungle avec ses dangers, avec sa météo, avec ses animaux.
Le district où se trouvait le chantier de Celso était à 1h30 de marche du camp principal. Afin d'éviter une longue perte de temps, lui et ses 8 compagnons avaient préféré se construire de petites huttes sommaires pour y passer la nuit et se réveiller à pied d'œuvre. Ils ne retournaient au grand camp que 2 fois par semaine pour renouveler leurs vivres, échanger ou affiler leurs haches. Les grandes pluies de septembre étaient proches. Encore 3 semaines et la mise à l'eau pourrait commencer. Elle débutait toujours par les régions les plus éloignées des grands fleuves, celles où les eaux d'inondation s'écoulaient vite et ne séjournaient que 3 ou 4 jours au plus. Les districts plus à proximité des cours d'eau pouvaient attendre, car les hautes eaux ne se retiraient pas avant 2 semaines. La chaleur devenait torride, insupportable. Dans la brousse que défrichaient Celso et ses compagnons, l'air se chargeait d'une lourde vapeur d'eau étouffante. À mesure que le soleil montait, les ouvriers avaient plus de mal à résister et à continuer leur labeur harassant. Dans les régions découvertes, la saison des pluies est certainement la plus agréable, la plus rafraîchissante, mais dans la jungle, plus les pluies sont longues et plus on est proche de la période de 3 ou 4 semaines pendant lesquelles, au moins 6 fois par jour, le sol est noyé sous 3 pieds d'eau, plus l'existence de l'homme et des animaux domestiques devient un supplice infernal. Le sol est jonché de plantes et de feuilles moisies, formant une couche impénétrable qui l'empêche d'absorber la moindre goutte d'eau. Au lieu de s'infiltrer dans le sol, l'eau reste stagnante à la surface, rebelle même à l'évaporation, car les rayons ardents du soleil n'arrivent pas jusqu'au sol que noient les flaques et les mares. Les cimes des grands arbres sont si pressées les unes contre les autres, elles se rejoignent si intimement que le soleil ne perce leur entrelacs que rarement, quand par hasard un coup de vent les écarte un instant. Les pluies des jours précédents ont créé une telle vitalité, une telle exubérance que partout une nouvelle végétation verdoyante et serrée sort de terre. En quelques jours, le sol est envahi par des buissons épais qui effacent pistes et sentiers et la voûte opaque du feuillage oppose un barrage hermétique à l'air frais. La chaleur règne, impitoyable, dans la forêt. Elle fait couler à flot la sueur de l'homme. L'air est si saturé de vapeur humide qu'il refuse d'évaporer cette sueur, et l'homme est aveuglé par l'eau qui ruisselle sans arrêt sur son front. Cette moiteur perpétuelle sous un ciel de feuillage impénétrable, le séjour dans l'eau jusqu'aux hanches, l'amollissent et l'alourdissent. De quelque côté qu'il se tourne, il ne voit que la verte frondaison s'entrouer. Il rencontre partout la même humidité tiède qui lui opprime le souffle. Cette atmosphère suffit déjà pour débiliter l'homme, pour affaiblir ses sens et lui faire perdre jusqu'au jugement. À chaque coup de cognée qu'il frappe sur les troncs de caoba, dur comme de l'acier, le bûcheron croit qu'il est au bout de son effort. Il sent qu'il ne pourra pas aller plus loin et qu'avant d'avoir attaqué l'arbre suivant, il va tomber indifférent désormais au destin qui l'attend. Et pourtant, son supplice n'est pas encore terminé. À mesure que la saison des pluies se prolonge, les animaux féroces, les reptiles et les insectes deviennent plus prolifiques. La saison des hautes eaux signifie pour eux la grande fête de la résurrection. Les moustiques tourbillonnent en nuages denses et sont agressifs d'un bout de l'année à l'autre dans la jungle. Il semble que leur existence soit éternelle. À peine un insecte est-il mort que sa progéniture l'a remplacé. Mais pendant la saison des pluies, ce ne sont plus des essaims, mais des myriades et des myriades. Pour ces armées voraces, le sang est un régal, le plus précieux qu'ils connaissent. Ils arrivent, innombrables de toutes les espèces, vomies sans doute par l'enfer pour empoisonner l'existence de l'homme sur la terre et le faire soupirer après le calme du paradis. Les petites mouches noirâtres, dont chaque morsure laisse une cloque douloureuse, viennent en essaim si serré qu'il ne faut même pas une demi-heure pour n'être plus qu'une plaie. D'autres viennent aussi, grosses comme des frelons, voraces comme des rats, et avec elles apparaissent les araignées géantes ou naines, et les scorpions, et les mille pattes, et les serpents qui semblent attendre patiemment que le pied nu d'un indien se pose sur leur embuscade de mousse et de lianes. Les chats-tigres, les tigres et les pumas guettent leur proie au creux des grosses branches, prêts à sauter sur le bûcheron qui passe, absorbés par son travail et ne songeant même pas à lever la tête. Pendant la saison des pluies, les muchachos avaient trop de mal à travailler aux approches de midi. Ils avaient pris l'habitude de prendre un peu de café et quelques tortillas à l'aube, avant de se rendre au chantier et de faire un repas substantiel vers le milieu de la journée. De cette manière, il parvenait à éviter le supplice des heures chaudes. Dans le petit camp qu'ils avaient nommé le Palo Caído, quelques compagnons étaient accroupis autour d'un foyer allumé sur un emplacement sec. Il y avait là Celso, Martin Trinidad, Juan Mendez, Lucido Ortiz, Casimiro, Paciano, Encarnacion et Roman. C'étaient tous des bûcherons. Deux d'entre eux étaient penchés sur le foyer et surveillaient les cafetières et les écuelles où mijotaient le riz et les haricots. Les autres, éparpillés un peu plus loin, fumaient, à demi assoupis, en attendant le repas. Le matin de bonne heure, Celso avait tué à coups de pierre un gros lézard. Lucido l'avait vidé et le faisait cuire, de sorte que la pitance des ouvriers promettait d'être moins frugale.
Alors maintenant, la révolte est lancée, la révolte des Indiens est lancée. Les Indiens sont organisés, ils se sont organisés et ils montent à l'assaut des bâtiments dans lesquels vivent les patrons et les contremaîtres. Et dans l'extrait qui suit, c'est l'attaque de ces bâtiments, ce qu'on appelle les oficinas, avec quelques réflexions sur les opprimés et les oppresseurs.
Vicente revint en courant. Les capataces sont arrivés, ils vont droit à l'oficina. Alors, en avant, commanda Martin Trinidad au petit groupe qu'il avait reçu la mission de couper la retraite aux futurs assiégés. Les chiens avaient cessé d'aboyer. Quelques-uns même suivirent les conjurés. Les hommes se faufilèrent le long du talus, sur la berge, jusqu'à la hauteur de l'officina principale. Puis, ils escaladèrent le talus, se déployèrent en ligne et se dissimulèrent derrière l'enceinte de buissons, de telle sorte qu'ils pouvaient observer ce qui s'est passé sans être aperçus. Dès qu'ils furent à leur poste, Segundino fit entendre l'aboiement plaintif du coyote. Il le fit avec tant d'art que les chiens se détournèrent pour faire la chasse à leur ennemi naturel. « Ils sont en place, » dit Celso d'une voix calme. Mais ses yeux et le frémissement de ses narines trahissaient son anxiété. Ni lui, ni aucun de ses camarades ne s'étaient encore jamais révoltés de leur vie. Ils ne s'étaient même pas protégés le visage quand on les fouaillait à coups de cravache. Les maîtres, les cachupines, les Espagnols, les Ladinos et les Chinos Blancos des Cafatales allemands étaient des dieux contre lesquels un péon indien n'eût jamais osé se révolter. Ce n'était ni par lâcheté ni par l'espoir d'un pardon qu'ils agissaient ainsi. Ils savaient qu'il y a des dieux et des serviteurs, et qui n'était pas dieu ne pouvait être qu'un serviteur, obéissant et soumis. Entre ces deux classes, il n'y avait rien, sauf peut-être de bons chevaux de sel. Mais quand l'opprimé commence à prendre conscience que sa vie est devenue semblable à celle des animaux, qu'il lui est impossible de leur ressembler davantage, alors les limites sont déjà franchies. Alors l'homme perd toute raison et il agit comme un animal, comme une brute, pour tenter de retrouver sa dignité d'homme. Ce qui arrivait à la Monteria, comme ce qui arrive partout ailleurs dans les mêmes conditions, ne pouvait être imputé à crime aux muchachos, mais uniquement à ceux qui avaient créé ces conditions et en tiré profit. Chaque coup de cravache donné à un être humain est comme un coup de cloche sonnant le glas de la puissance qui a ordonné ce coup de cravache. Malheureux à celui qui est abattu et qui oublie les coups qu'il a reçus. Et trois fois malheur à ceux qui se dérobent et ne luttent point pour rendre coup par coup.
Dans l'extrait de lecture qui vient de vous être proposé, les paysans indiens se projetaient d'assiéger l'Officina. Eh bien, Betraven nous propose maintenant, en quelque sorte, l'envers du décor, autrement dit, au moment de l'assaut, quelles sont les réflexions des patrons et des contremaîtres au sein de cette Officina.
Brusquement, tous les muchachos se sentirent les jambes lourdes en prenant conscience que le moment de partir à l'assaut était arrivé. Mais ils étaient unanimes à comprendre qu'ils ne pouvaient plus reculer. Les ponts étaient rompus derrière eux. Le meurtre des trois capataces. Le meurtre des trois capataces ne les laissait plus d'autre voie que celle qui menait vers l'avant. La question ne se posait plus de savoir s'ils allaient vers la victoire ou vers la défaite. Il fallait marcher, quel que fût le but, sans se préoccuper de l'issue du combat. C'est pourquoi l'étrange sentiment d'appréhension qui les étreignit ne dura que quelques secondes. Quand Celso cria « Adelante, rebeldes, tierra e libertad !» ils ne marchèrent plus, mais ils bondirent, telle une harde de chevaux sauvages, qui se ruent à l'abreuvoir. Sans le savoir, même sans le vouloir, ils avaient déjà gagné la moitié de cette bataille. Ils s'étaient avancés lentement, Don Félix et Don Severo se seraient imaginés que les muchachos venaient à l'officina parce qu'un événement anormal venait de se produire, peut-être un effondrement de terrain, avec des morts ou la dislocation d'une pile de torsas, ou l'apparition d'un groupe de tigres. Mais les Montelano auraient commencé par parler, par interroger, et les muchachos, inhabiles à s'exprimer et surtout à discuter avec les patrons, se seraient troublés et n'auraient su ni s'expliquer, ni réclamer, ni comment réclamer. Sans doute d'ailleurs, les choses auraient tourné de la même façon, puisqu'ils n'avaient plus d'autre issue que la conquête de la liberté totale. Don Severo se tenait sur le pas de la porte et discutait avec son frère, tournant le dos au terre-plein. Lorsqu'il entendit les muchachos arriver, en grand tumulte, il leur fit face, mais il ne comprit presque rien à leur vociférations, car la plupart parlaient leur dialecte indien. « Por Dios, que se passe-t-il ? » Ce n'est pas aux muchachos qu'il posa cette question, mais à son frère et aux capataces, qui commençaient justement d'arroser leur repas du soir et tenaient encore leur verre en main. Don Félix et les capataces se levèrent d'un bond et le rejoignirent sous le portico. Don Severo s'avança jusqu'à la balustrade et cria aux muchachos « Qu'y a-t-il ? Pourquoi venez-vous ainsi tous ensemble ? Vous auriez pu travailler une heure de plus. Il ne fait pas encore nuit. « Chien, perro !» fut la réponse. « Cabron, fils de prostituée !» hurla un autre. « Que chingen de sus madres !» Les injures et les vociférations devenaient générales, mais il était impossible de distinguer nettement ce que réclamaient les muchachos. Seules des insultes d'une grossièreté révoltante étaient perceptibles. Don Severo se retourna à demi vers les capataces et demanda « Mais qu'ont-ils donc ?»« Encore des chiens détruits, des ânes !» répéta la foule des révoltés qui se tenait à une petite distance du bâtiment principal. « Dieu sait quelle idiotie tu as encore combiné !» dit Don Severo à son frère. « Moi ? Rien. Que veux-tu que j'ai fait ? Dans les derniers temps, on a pendu ni fouetté personne. Depuis l'enterrement de Cacho, depuis que tu as dit qu'il fallait rendre un peu la bride, on n'a touché personne. Mais dit El Faldon, con su permiso, Jeffé, et le Camula et son fils. C'est bien Candido qu'il s'appelle. Celui-là, il avait foutu le camp. On ne l'a pas pendu ni fouetté. Je l'ai envoyé au Campo Nuevo. Mais sa sœur est ici, insista El Faldon. En quoi ai-je à m'occuper de sa saloperie de sœur ? Je lui ai rien fait. Elle a joué la fille de l'air ce matin. C'est bien ce que tu veux. C'est bien. Que veux-tu que ça me foute ? Alors, par tous les saints, je ne comprends pas ce qu'ils ont, dit Don Severo. Il se tut un instant et inspecta les alentours. Nom de Dieu, reprit-il bientôt. Nous avons toute une armée sur les reins. Il venait d'apercevoir les gars qui, venus de la berge, menaçaient de leur couper toute retraite. Je crois bien, chef, qu'il y a du louche là-dessous, dit El Chato. Ferme ça, espèce d'idiot. Ai-je besoin que tu me le dises ? Comme si je n'étais pas assez grand pour m'en rendre compte. Si seulement ces salauds gueulaient un peu moins fort et disaient ce qu'ils veulent. Chingados, El Cabrones. On n'entend pas autre chose. Voilà justement ce qui me paraît bizarre, interrompit Don Félix. Je suppose qu'ils en ont après 2 ou 3 capataces. Parce que tout de même, à nous, ils n'oseraient pas nous parler ainsi. Don Félix se tourna vers les capataces. Allez-vous parler, vous autres ? Quel nouvel exploit avez-vous accompli ? Je l'ai pourtant dit 1000 fois. Laissez leurs femmes tranquilles, puisque vous êtes avec les vôtres. Elfaldon parcourut du regard le groupe des capataces. Je ne veux pas El Dobaldo, dit-il. Où peut-il être ? Ne t'en fais pas pour lui, répondit El Chato. Il n'est pas encore arrivé, voilà tout. Tiens, fit Don Félix, on dirait que tu as des soupçons sur Dobaldo. C'est que, répondit Elfaldon, il y a eu une histoire avec une jeune fille amenée ici par un des muchachos. Il l'a renversée et prise de force. Dans ce cas, ce serait du pain béni s'il lui arrivait malheur. Ils n'ont qu'à laisser les femmes en paix. Il y a assez de garces qui rôdent dans le camp pour que chacun puisse se contenter.
L'Oficina a donc été prise d'assaut. Les Indiens, les muchachos, s'apprêtent à exécuter les patrons, les frères Montelanos, et notamment un des deux frères, Don Félix. Modesta, la sœur de Candido, s'interpose et prononce le réquisitoire que l'on va maintenant écouter.
Il se retourna et vit Modesta qui se tenait à quelques pas en arrière. Au même instant, Celso arrivait sur les lieux. Il venait de cadenasser les portes sur les chiens et sur les porcs. Il s'approcha de Modesta. Son visage ne trahit pas le moindre étonnement, car il avait compris. Il savait que Modesta était du même sang, de la même race que lui. Il savait qu'elle obéissait à l'instinct ancestral, à l'instinct de justice et d'harmonie. « Frère, mon frère !» répéta la jeune fille. « Ne tue pas cet homme !» Modesta se tenait immobile, à l'endroit même où elle avait poussé son premier cri, juste au milieu du portico couvert qui courait le long des murs de l'officina. Entre Modesta et le coin où Don Félix se tenait recroquevillé, il n'y avait personne, sauf le jeune bûcheron qui s'apprêtait à le tuer. Tous les autres muchachos s'étaient groupés derrière elle. À peine 20 minutes s'étaient écoulées depuis le moment où Celso avait donné le signal. Il faisait encore jour. Il s'en fallait encore d'une demi-heure avant que le soleil ne se couchât. Mais le ciel était couvert, la nuit ne passerait pas sans une nouvelle averse. Modesta était toujours revêtue de la chemise trouée que lui avait donnée Celso. Elle était pieds nus. Ses locks recouvraient à peine le haut de son corps et découvraient ses jambes à partir des hanches. Ses cuisses et ses pieds étaient écorchés par les ronces qu'il avait déchirées pendant sa course et perdues à travers la jungle. Sa chevelure noire et drue lui pendait en mèches folles autour du visage. Depuis la traversée malheureuse dans le Cayuco, elle avait perdu tous ses peignes. Elle avait eu justement l'intention, ce matin-là, de demander à la femme du cuisinier de lui en prêter un. C'était alors qu'elle était tombée entre les griffes de Don Félix. Modesta était de taille très moyenne, comme la plupart des femmes de sa race. Mais son corps était bien fait et de proportions harmonieuses, de sorte qu'elle paraissait plus grande qu'elle n'était en réalité. Au milieu de tous ces gars solides, elle semblait une petite fille, mais quand elle lança son appel vers celui qui s'apprêtait à châtier Don Félix, elle parut grandir. Pour la troisième fois, elle répéta « Ne tue pas cet homme, je veux l'avoir vivant, il me le faut vivant si moi-même je veux continuer de vivre. » Alors le muchacho qui tenait Don Félix sous son genou se releva, s'écarta et lentement, à petits pas, vint se placer tout près de Modesta. Il la regarda longuement, mais Modesta ne vit point son regard. Elle tenait les yeux obstinément fixés sur Don Félix, qui, semblant redouter une attaque de la jeune fille, se faisait de plus en plus petit dans son coin. On ne voyait plus que sa tête et ses larges épaules. Modesta leva le bras droit, le tendit dans la direction de Don Félix et son index, elle désigna le visage du monstre vaincu. « Toi, toi, que tu aies obligé mon frère et le petit à s'embarquer avec un ivrogne, et que le petit se soit noyé, en dépit des objurgations de mon frère qui voulait attendre le jour, je te le pardonne. » Un silence angoissant s'empara de tous les muchachos. Ils ne comprenaient pas encore où la jeune fille voulait en venir. Quelques-uns même s'agitèrent et murmurèrent « Non, pourquoi lui pardonner? Il faut le tuer !» Mais ceux qui étaient tout près de Modesta leur imposèrent silence. Autour de Modesta, ils avaient senti que ses paroles n'étaient qu'un prélude et qu'elle avait encore autre chose à dire. Le doigt toujours tendu vers Don Félix, Modesta reprit haleine, puis elle continua. « Que le petit se soit noyé par ta faute, je te le pardonne encore, car tu es le maître, tu commandes et nous devons obéir. »« Plus de patron, plus de maître !» s'écrièrent quelques exaltés. Les autres les firent taire. Modesta n'entendait rien de ce qui se passait derrière elle. Elle regardait fixement Don Félix, comme si elle eût voulu le fasciner. On voyait nettement la terreur envahir peu à peu le visage de l'homme. Peut-être se souvenait-il d'avoir entendu dire que rien ne pouvait être plus terrible pour un prisonnier que d'être livré aux femmes de la tribu. Car les hommes ont l'habitude de travailler et d'agir promptement, tandis que les femmes accomplissent leurs besognes sans hâte, comme leur cuisine. La voix. Que tu aies voulu me violer aujourd'hui, me prendre de force contre ma volonté, que tu m'aies obligé de fuir ici toute nue sous le regard des hommes, je te le pardonne encore car tu es un homme et je suis une femme. Celso, qui connaissait mieux que personne le malheur de Modesta, commençait enfin de comprendre. Il eut un petit ricanement. En même temps, il se sentit fier que Modesta l'eût choisi comme protecteur. Il fit un signe rapide aux autres muchachos. Laissez-la parler, elle sait très bien ce qu'elle veut. Toujours figé dans son attitude vengeresse, Modesta poursuivit. « Que tu aies fait couper les oreilles à mon frère bien-aimé, Candido, que tu l'aies mutilé parce qu'il t'avait manqué de respect, cela encore je te le pardonne, car il s'était enfui et avait rompu son contrat, et toi, son maître, tu étais en droit de le châtier si cruel et si horrible que fut la peine. » Cette fois, tous les muchachos avaient compris que le réquisitoire de Modesta avait atteint son point culminant. Mais mettant toute sa force dans ses dernières paroles, Modesta continua. Mais le petit, le tout petit, qui ne t'avait rien fait de mal, qui ne pouvait te faire aucun mal avec ses petites menottes et ses pensées innocentes, pour lesquelles je t'implorais roulé sur la terre nue, au nom de la Sainte Mère de Dieu, de toute l'angoisse de mon cœur, toi, Satan, brute sauvage, bien que le petit ait joint ses petites mains et se soit mis à genoux devant toi, et qui t'ait supplié comme il l'aurait prié un Dios Santo, toi, Cachupin, Ladino, pour te venger d'une faute de son malheureux père, tu n'as pas craint de lui couper ses petites oreilles, et tu l'as mutilé pour le restant de ses jours, tu lui as donné le visage d'un misérable pécheur. Eh bien, cela je ne te le pardonne pas. S'il y a eu au ciel un Dieu de justice, et s'il daigne répandre un peu de sa grâce sur la tête de ses enfants oubliés, s'il veut bien écouter les prières que je lui adresse du fond de mon âme, je le conjure de ne jamais te pardonner, aussi longtemps que durera l'éternité. Il faut que tu sois le pécheur le plus damné parmi les damnés pour l'éternité, aussi vrai que je m'incline devant la très sainte Vierge, qui connaît mes souffrances, elle qui a vu souffrir son fils comme j'ai vu souffrir le petit dont j'étais bien la mère, car j'avais suivi son père de ma propre volonté pour lui donner mon amour et ma protection. Je ne te crache pas mon mépris au visage parce que tu es tombé trop bas pour qu'une femme puisse te mépriser. Je ne te toucherai pas de crainte que mes mains ne soient empuanties jusqu'à la dernière heure de mon existence. Je ne te maudis pas parce que ma malédiction serait sans effet. Je t'abandonne à l'enfer, à la damnation et à la vengeance du Dieu, juste car, tel que tu es, même la mère la plus miséricordieuse qui soit au ciel te refuserait la plus petite, la plus minuscule parcelle de pitié. » Modesta se tut. Elle se sentit revenir sur terre, sortir de l'extase où elle avait vécu pendant son discours. Elle regarda autour d'elle et parut pour la première fois s'apercevoir qu'elle était entourée. Son bras retomba. Elle eut l'impression qu'il allait se détacher de son corps. Et brusquement, elle trembla. Jusqu'à ce moment, elle avait parlé d'une voix forte et vibrante, agréable à entendre. Mais revenue à elle, ses paroles se firent âpres et bruyantes, et sa bouche eut un affreux rictus. Maintenant, muchachos, je vous livre le tigre des Monterias. La brute vous appartient à présent. Prenez-le, il est à vous. Il n'a ni âme ni cœur. Ce n'est pas un être humain. Il ne l'a jamais été. C'est une bête fauve. Faites-lui payer les oreilles du pauvre petit, celle qui lui a volé. Pagar, pagar. Debe pagar las orejas. En prononçant ces derniers mots, Modesta avait parcouru le front de ses auditeurs pour les inciter à passer à l'action, comme si elle avait voulu les appeler aux armes. Les muchachos ont l'air transportés. Viva muchacha, arriba Modesta, viva la chamulita, arriba nuestra heroína, viva Modesta, viva la rebelión, tierra y libertad. Les clameurs sauvages des hommes réveillèrent tout à fait la jeune fille. Elle chancela et dut s'appuyer contre la balustrade. Des mains se tendirent pour la soutenir. Elle se redressa, se cacha le visage dans ses mains, se laissa tomber sur le sol et se mit à pleurer. Les muchachos se sentirent brusquement troublés. Ils parlaient et s'agitaient, mais restaient à distance.
Bien, on va donc écouter maintenant le dernier extrait, hein, tout au moins le dernier extrait pour aujourd'hui. C'est un extrait qui, d'une certaine manière, résonne dans notre actualité, hein, de notre actualité de ce début du XXIe siècle. Donc les Indiens sont tout en bas de l'échelle, hein, ce sont eux qui se sont révoltés. Mais qu'est-ce qu'il en est des artisans, des forgerons, etc., hein, de toutes ces professions qui, d'une certaine manière, sont des travailleurs privilégiés, tout au moins, au regard de la situation des Indiens, des prolétaires les plus exploités. Et Betraven nous fait part de son opinion concernant ce qu'on appellerait aujourd'hui les couches moyennes.
L'obscurité était venue. Encore un quart d'heure et ce serait la nuit. De nouveaux groupes de bouviers et de bûcherons arrivaient sans arrêt au camp principal. Beaucoup avaient été avertis et venaient, alors qu'en temps normal, ils seraient restés à proximité de leur chantier. Andreu avait été rendre visite à la tiendra en compagnie de Santiago pour monter la garde et empêcher le pillage. Du reste, personne n'avait encore songé à prendre quoi que ce fût. Tous étaient bien trop occupés à faire place nette dans l'officina. Après en avoir délibéré avec Celso et Martin Trinidad, il avait été convenu qu'Andreu ferait une répartition équitable des provisions entre tous les muchachos. La proposition émanait d'Andreu, qui fut choisi comme répartiteur, étant le seul qui sut lire et écrire. Lorsqu'il arriva à la tienda, elle était fermée à clé. L'employé qui s'en occupait habituellement était parti se cacher. Andreu laissa Santiago en sentinelle devant la porte de la tienda et s'en fut du côté des huttes où il était à peu près certain de trouver le magasinier. Il avait l'intention de lui demander la clé afin d'éviter de forcer la porte. Il rencontra Celso accompagné de quelques muchachos qui étaient venus à la recherche des cayuqueros. Il voulait se faire conduire dans les divers campements et ramener Candido. Les artisans, forgerons, celliers, cordiers, cuisiniers et cayuqueros étaient les travailleurs privilégiés. Ils constituaient la classe moyenne. Ils recevaient un salaire journalier d'un peso ou d'un peso et demi, vivaient à la Monteria avec leurs femmes et leurs enfants et formaient une véritable petite cité. Les uns étaient des métis et les autres des ladinos. Ils méprisaient les muchachos au moins autant sinon plus que ne le faisaient les patrons. Ils étaient considérés comme des gens bien, parlaient un espagnol décent, possédaient une petite chapelle, savaient lire et écrire. Presque tous étaient des citadins qui ne consentaient à se commettre avec les muchachos que lorsqu'ils avaient quelque chose à leur vendre et qu'ils voyaient quelque argent entre leurs mains. Ils étaient fiers de pouvoir parler au patron sur un pied d'égalité. Ils n'étaient obligés ni de se courber, ni de croiser les mains sur la poitrine en leur présence. Ils n'avaient même pas besoin de garder le chapeau à la main en s'entretenant avec le maître et se recoiffer instantanément quand Don Severo les autorisait à le faire. Ils se prenaient presque pour des aristocrates.
À vrai dire, leur situation matérielle était proche de celle des muchachos, mais ils ne voulaient pas en convenir. Même s'ils gagnaient moins qu'un muchacho, ils se considéraient comme richement payés quand le maître leur faisait un petit signe amical ou les invitait à boire, debout, un verre, de temps à autre. Ils étaient toujours prêts à abonder dans le sens des patrons, à prendre parti contre les fainéants et pouilleux d'Indiens, et ne voyaient aucun inconvénient à cogner sur les muchachos quand les patronnes les y conviaient. Tous les ouvriers, cayuqueros, cabartiers et leurs familles avaient assisté du seuil de leur hutte à l'assaut de l'officina. Un grand nombre d'entre eux possédaient des revolvers. Si les patrons et les capataces les avaient appelés à l'aide au moment de l'assaut, ils seraient venus. Seulement, Don Severo n'avait eu ni le temps ni l'idée de faire appel à eux. D'abord, il n'avait pas cru au sérieux de la mutinerie. Quand il s'était rendu compte de son erreur, il était trop tard. Tous ces petits artisans s'étaient réjouis qu'on les oubliât. Ils estimaient plus sage et moins dangereux d'assister au combat bien à l'abri et de regarder de loin les événements se dérouler, bien décidés à se mettre du côté du vainqueur et à le féliciter de sa victoire. Si les muchachos triomphaient, ils feraient chorus avec eux. Si les patrons avaient le dessus, ils feraient tous leurs devoirs et fourniraient tout le matériel nécessaire pour mater la rébellion. Or, les rebelles avaient vaincu. Aussi, dès que les artisans virent arriver les muchachos chez eux, ils s'empressèrent. « Nous l'avions bien dit. Il fallait que cela arrive un jour. Il faut traiter les muchachos un peu mieux. On ne peut pas maltraiter tout le monde, tout le temps, un cheval. À plus forte raison, un muchacho qui est un homme, après tout. » Celso, Andreu, Santiago, Fidel, Martin Trinidad, Juan Mendez, Lucido Ortiz et la plupart des autres savaient à quoi s'en tenir sur les protestations de leurs nouveaux amis. Ils ne s'en laissèrent point compter et déclinèrent les offres de service qu'on leur faisait avec tant d'empressement. Les plus intelligents des muchachos, qui n'étaient pas seulement des insurgés récents, mais foncièrement révolutionnaires et de longue date, savaient exactement ce qu'il fallait penser de ces invertébrés et ne pouvaient se fier à leurs démonstrations, car ils étaient persuadés que si, avec l'aide des fédérales, la situation venait à se retourner, les mêmes flagorneurs se rangeraient avec le même empressement du côté des aristocrates. Ils se feraient aussitôt les dénonciateurs les plus acharnés, les auxiliaires les plus ardents des policiers. C'est pourquoi les muchachos restèrent insensibles à l'attitude rampante des artisans. « Je l'avais bien dit, » répétait le forgeron. « N'est-ce pas, camarade, je l'avais toujours dit que cela ne pouvait pas durer. »« Bien sûr, compadre, tu l'avais toujours dit et tu vas fermer ça, » répondit brutalement Celso, « sans quoi je te fais descendre la mâchoire dans les tripes. Punaise que vous êtes. Où logent les cayuqueros ?»« Par là, Chamulito. Si tu veux, je vais te conduire. » « C'est là-bas où brille cette lanterne. La première maison est celle de Pablo, ensuite vient celle de Felipe. »
Eh bien, notre émission se termine. J'espère que vous y avez pris du plaisir et que vous avez envie d'aller plus loin dans la lecture de La révolte des pendus de Betraven. Les différents extraits qui vous ont été proposés aujourd'hui ont été lus par Mélissa, Jérémy, Sarah et Michel. Et la musique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, c'est El Pueblo Unido, du groupe Zion Dirty Sound. Ce sont deux personnes, Djibril et Faïda, qui nous proposent des morceaux avec des inspirations à chercher du côté du dub, de leurs origines africaines, de l'Amérique du Sud, etc. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la dernière série consacrée à la révolte des pendus de Betraven. Et je vous laisse avec un nouveau morceau de Diego Codaval, Sopra vers Sambar. Thank you.
vejo você, não quer tanto de mim. Basta um olhar que não seja através. Também não me olha assim. Antes de você, queria tanto ter e aí está. Quem podia dizer que esse samba era bom, mas só pra ver. Quero estar aqui, tento descrever, seria bom, mas não pra ficar assim. Longe de você, veja, ninguém podia acreditar. Quero muito sambar esse samba que é bom, mas só pra ver. Só pra ver samba. Só pra ver samba. Chegando mais tarde, já tive de longe. Tu dançando, se acabando, com uma cerveja na mão. Ai, não pude evitar, te querer um pouquinho. Fui entrando na fila que tu tava a censurar. Vim dançando de braços abertos, segunda de carnaval. Só pra ver samba. Seria bom, mas não pra ficar assim. Longe de você, veja, ninguém podia acreditar. Quero muito samba, quero muito samba, quero muito samba, quero muito samba. Só pra ver samba.